Imaginons un peu la scène. Il est 6h30, un matin de novembre.
Ouais, le plein hiver, quoi.
C'est ça. Il fait un froid glacial, il y a une nuit d'encre à l'extérieur. Et là, un parent complètement épuisé réveille ses enfants, les habille dans une quasi-pénombre et les traîne vers l'école.
Alors que le soleil est encore à des heures de se lever.
Exactement. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'une décision administrative prise bien plus haut a décrété que l'horloge du pays devait, tu sais, s'aligner sur celle d'un autre continent.
Pour faciliter les échanges boursiers, les multinationales, ce genre de choses.
Voilà. C'est une image frappante pour commencer notre plongée dans les sources aujourd'hui. On va décrypter une dynamique sociétale vraiment d'une complexité rare au Maroc.
Oui, on va examiner une liasse de documents fascinante. C'est le numéro 133 du magazine marocain eWeek, daté de juin 2026.
Et l'objectif de cette exploration, c'est vraiment de comprendre cette tension. D'un côté, on a cette réalité brute, intime, faite de fatigue et de fin de mois difficiles d'ailleurs. Et de l'autre, une ambition étatique monumentale, presque vertigineuse à l'approche de 2030.
Absolument. Et il faut bien garder à l'esprit pour ceux qui nous écoutent que cette analyse s'inscrit dans un contexte global passablement secoué.
Ah oui, la couverture du magazine est d'ailleurs assez lourde à ce sujet.
Oui, elle rappelle avec gravité les 164 morts tragiques suite à deux séismes consécutifs au Venezuela. Donc, le monde tremble, littéralement. Et au milieu de tout ça, les nations tentent de naviguer entre leurs failles internes et leurs grands rêves.
C'est le grand écart permanent. Et d'ailleurs, pour comprendre cette navigation, souvent, il ne faut pas regarder les grands discours politiques.
Non, il faut regarder les détails.
Exactement. Il faut regarder ces horloges, en fait.
C'est un point d'entrée inattendu, je te l'accorde, mais redoutablement efficace. L'annonce de l'abandon du GMT+1 et du retour définitif du Maroc à l'heure GMT, qui est prévue pour le 20 septembre 2026, c'est tout sauf une simple manipulation d'aiguille.
C'est clair.
C'est vraiment une fenêtre grande ouverte sur la psychologie d'un pays tout entier, sur un contrat social qui cherchait désespérément à être rafistolé.
Et c'est traité avec une plume super acérée dans l'éditorial du magazine, d'ailleurs. L'auteur joue à fond sur l'ironie mordante de la mesure.
Ouais, l'éditorialiste décrit ce fameux matin où le citoyen va se réveiller, voir la lumière du jour et se dire enfin l'État et le soleil sont d'accord.
C'est très poétique. Mais bon, la réalité économique vient tout de suite casser l'ambiance.
Ah bah oui.
L'éditorialiste lâche une formule implacable. Il dit en gros, certes, on gagne une heure de sommeil supplémentaire, mais l'heure de rab ne remplit pas le frigo. La phrase exacte, je l'ai là, c'est « le découvert bancaire, lui, ne dort jamais ».
Ça frappe fort. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'analyse des sources va bien au-delà d'une simple opinion de journaliste.
Ouais, il y a des données derrière.
Exactement. Le magazine s'appuie sur une étude très pointue du cabinet ACHGL Insights, publiée en mars 2026. Et ce n'est pas un sondage classique, c'est une vraie plongée dans la donnée brute.
Ils ont brassé un volume énorme, non ?
Oui, ils ont passé au crible 14 387 commentaires laissés sur Facebook, Instagram et TikTok. Et en analysant toutes ces interactions non filtrées, l'étude révèle un truc profond. Le débat sur l'heure d'été n'a plus rien à voir avec l'économie. Le cœur du problème, c'était vraiment l'épuisement total.
Et les chiffres sont dingues. Je voyais que près de 41% des réactions expriment une fatigue purement physique, psychologique aussi.
C'est énorme.
Les gens parlent pas de compétitivité à l'exportation dans les commentaires. Ils parlent de désorientation, de l'impression de marcher à contre-courant de la nature.
Mmh.
En lisant ça, j'avais une image en tête. C'est exactement comme si, lors d'une consultation, le patient disait au médecin « J'ai mal partout, je n'arrive plus à me lever ». Et que le médecin lui répondait en lui montrant fièrement les courbes de croissance du PIB sur son écran.
Un dialogue de sourds absolu. Et c'est là que le rejet du GMT+1 est devenu, de fait, une métaphore de l'impuissance.
Oui. Pendant des années, l'argumentaire officiel, c'était « c'est bon pour l'économie ». Et la réponse silencieuse, charnelle des citoyens, c'était « peut-être, mais c'est invivable pour nos corps ».
C'est ça. D'ailleurs, l'étude pointe un phénomène très inquiétant. Dans ces 14 000 commentaires, il y a une absence totale, mais vraiment terrifiante, des corps intermédiaires.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, les syndicats ?
Exactement. Personne n'en appelle aux syndicats, personne ne mentionne les partis politiques ou les députés pour résoudre le problème. Le face-à-face est devenu complètement direct, frontal, entre l'individu épuisé et l'appareil d'État.
Ah oui, d'où cette espèce de résignation teintée d'humour noir qu'on voit en ligne. Les internautes parlent de chaque année la même cassette. On se moque parce qu'on se sent impuissant, quoi.
Tout à fait.
Mais attends, je t'arrête une seconde sur l'étude, parce qu'il y a un point qui m'a vraiment fait sourciller.
Je t'écoute.
Ils expliquent que ce débat sur le fuseau horaire a pris une dimension identitaire. Sérieusement, hein ? Enfin, comment le fait d'avancer ou de reculer sa montre, ça devient soudainement une crise de souveraineté nationale ? Les gens parlent de soumission aux multinationales françaises. C'est pas un peu exagéré ?
Alors, ça peut paraître surprenant, mais si l'on relie cela au contexte global et historique, c'est profondément logique. Le temps n'est jamais neutre, tu sais.
C'est vrai.
Il organise la vie sociale, la vie religieuse. Et l'étude montre que l'heure d'hiver, donc l'heure GMT, est perçue par beaucoup comme l'heure naturelle, celle qui est alignée sur les prières, sur le cycle du soleil.
Ah, la notion de baraka, c'est ça?
Voilà, l'heure porteuse de baraka, de bénédiction. Et à l'inverse, s'aligner sur l'Europe centrale, c'était vu comme imposer un rythme artificiel.
Ah, je comprends mieux. C'est subordonner le confort physiologique de millions de foyers marocains aux besoins de synchronisation des centres d'appel.
Et des filiales françaises, exactement. Dans l'inconscient collectif, l'horloge n'indiquait plus l'heure, elle indiquait qui dictait vraiment les règles. Donc ce retour au GMT annoncé pour septembre 2026, c'est un symbole immense.
Une mesure de réparation psychologique, en fait.
C'est ça. L'État dit en substance, nous vous avons entendu, nous vous rendons votre temps.
C'est fort. Mais ça nous amène au cœur du problème de notre exploration. Rendre le soleil aux citoyens, c'est super. Mais pour réparer un contrat social aussi abîmé, il faut prouver que le système lui-même n'est pas truqué.
Exactement. La confiance, ça va plus loin qu'une aiguille de montre.
Si le citoyen a eu l'impression que ses intérêts ont été sacrifiés, il a besoin de voir que ceux qui dirigent sont aussi soumis aux règles. Et ça, le magazine le documente de façon spectaculaire.
Ah, tu parles du volet judiciaire.
Oui, le 25 juin 2026, le verdict du fameux procès tentaculaire, l'affaire de l'Escobar du Sahara.
Un véritable séisme. C'est une réponse directe à ce besoin de transparence. Les condamnations sont d'une sévérité inédite pour des figures de ce calibre.
On parle de qui exactement pour que ce soit clair ?
Eh bien, on a Saïd Nassiri, l'ancien président de l'immense club de football du Wydad de Casablanca, qui prend 10 ans de prison ferme.
10 ans, c'est pas rien.
Et Abdenbi Bioui, l'ex-président de la région de l'Oriental, qui écope de 12 ans. Ce n'est pas juste un fait divers local, tu sais.
Non, le dossier est lourd. Ça mêle des mandats politiques, de la popularité sportive, tout ça comme paravent pour du blanchissement d'argent.
Et du trafic international de stupéfiants, oui, avec un narcotrafiquant malien de grande envergure.
D'accord, décortiquons cela un instant, parce que c'est spectaculaire. Mais en épluchant nos sources, juste à côté de cette affaire explosive, on tombe sur une info beaucoup plus, disons, austère.
Laquelle ?
On lit que le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, lancent des cycles de formation croisés. Le but, c'est de former les fonctionnaires au contrôle juridictionnel des marchés publics.
Oui.
C'est super technique. Et ma question, c'est, on a des barons locaux de la drogue qui tombent lourdement d'un côté, et de l'autre, on a des sessions de formation administrative. Pourquoi le magazine met ça en parallèle ? C'est la même stratégie ?
C'est non seulement la même stratégie, mais je dirais que c'est la seule façon pérenne de nettoyer un système.
Comment ça ?
Vois ça comme la médecine. Le procès de l'Escobar du Sahara, c'est le traitement du symptôme. L'État frappe fort pour dire attention, l'immunité politique ou sportive n'existe plus face au crime organisé.
D'accord. Et la formation ?
La démarche de Nizar Baraka et du CSPJ, c'est le traitement de la maladie elle-même. La corruption opère souvent à travers les failles des marchés publics. Quand on construit un barrage, il y a des milliards en jeu.
Et si le fonctionnaire qui rédige l'appel d'offres ne maîtrise pas les pièges légaux ?
Voilà. Le marché peut être manipulé. En asseyant les juges et les fonctionnaires à la même table pour les former, on verrouille le système de l'intérieur. On empêche l'argent d'être détourné avant même que la fraude puisse se concevoir.
C'est une vraie opération d'hygiène institutionnelle, en fait. Et on voit cette même volonté du côté des élections. L'AHA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a resserré les règles pour les législatives du 23 septembre 2026.
Oui, pour cadenasser le pluralisme et garantir l'équité du temps de parole, surtout face à l'anarchie des réseaux sociaux.
Mais pour ceux qui nous écoutent, il y a une question évidente. Pourquoi cette urgence ? Pourquoi réviser chaque rouage de l'État avec une telle frénésie en 2026 ?
La réponse tient en une date clé, 2030.
Ah, évidemment.
Le pays ne cherche plus seulement son équilibre interne. Il s'apprête à s'exposer à la face du monde. Co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA avec l'Espagne et le Portugal, ça ne pardonne aucune erreur.
Zéro marge d'erreur.
Quand on accueille la planète entière, les institutions, les infrastructures, la sécurité, tout doit être irréprochable.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant dans nos pages. Ce basculement vers l'international. On quitte la réparation pour la projection colossale. Et le grand symbole de ça, c'est le grand stade à Seine 2.
Tout à fait. Récompensé aux Architeasers A+ Awards 2026.
C'est fou, hein. Ce n'est plus juste du béton pour que 22 joueurs tapent dans un ballon. Là, c'est la consécration mondiale d'un savoir-faire, un vrai pôle multifonctionnel. Et la confiance sportive suit.
Oui, il y a cette citation de Mohamed Wahbi, le sélectionneur national.
Exact.
Il dit « Notre objectif est de remporter la Coupe du Monde ». Fini le discours de Pierre de Coubertin, on vise le sommet.
Le ton a complètement changé.
Mais au-delà du sport, les sources détaillent un objectif économique titanesque. Et là, les chiffres donnent le vertige. 2,3 millions de touristes ciblés d'ici 2030, mais dans le secteur MIS, le tourisme d'affaires. Pourquoi se focaliser autant sur les congrès et les salons ?
Parce que c'est le multiplicateur de richesse par excellence. Le tourisme d'affaires est infiniment plus lucratif que le tourisme de loisirs.
Le gars vient pas en sac à dos, quoi.
Exactement. Un congressiste international qui vient pour 3 jours, son entreprise paye tout, les hôtels 5 étoiles, les restaurants, les billets.
Mais j'imagine que l'exigence logistique est énorme.
D'une brutalité extrême, oui. Pour attirer ces millions de professionnels à Marrakech, Casablanca, Rabat ou Tanger, on ne peut pas avoir un aéroport qui dysfonctionne. Il faut une fluidité technologique, une connectivité parfaite, une sécurité totale.
C'est pour ça que le stade et les congrès sont liés. Ça oblige le pays à se hisser aux standards mondiaux.
C'est ça, ce sont les moteurs d'une transformation territoriale.
Sauf que, cette ouverture globale, ça amène des succès éclatants, mais aussi des vents très violents. Vouloir devenir le carrefour du monde, c'est accepter que le monde entier traverse votre salon.
Avec ses lumières et ses ondes d'ombre, malheureusement.
Et la dernière partie de notre liasse de sources l'illustre parfaitement. D'un côté, on a l'exportation du soft power. Zakaria et Lamel reçoit le prix Nelson Mandela en Italie pour la lutte contre l'extrémisme.
Une très belle reconnaissance de la société civile à l'international, oui.
Et même sur le plan spirituel, le magazine parle de Giancarlo Esposito, l'acteur de Breaking Bad, qui annonce sa conversion à l'islam après un voyage en Arabie Saoudite. C'est la face lumineuse de la mondialisation des idées.
Oui, un vrai en rétraction. Mais il y a l'autre face de la médaille.
Et elle fait froid dans le dos. Sur le sol national, l'événement qui a fait la une, c'est ce festival de musique qui a sombré dans le chaos. Totalement éclipsé par des violences inouïes.
Des agressions sexuelles en meute.
Et surtout, ce phénomène terrifiant des attaques à la seringue dans la foule, c'est la stupéfaction en fait. Comment ces deux réalités coexistent-elles? Des stades ultra sécurisés d'un côté et des jeunes qui se font piquer sauvagement de l'autre. C'est comme si... Attends, j'ai une idée. C'est comme si on mettait à jour l'ordinateur pour qu'il soit ultra puissant, connecté au monde entier, mais qu'on avait oublié d'installer le pare-feu.
C'est une analogie d'une grande justesse. La connectivité est là, mais tous les virus globaux entrent instantanément. C'est vraiment le symptôme d'une société à double vitesse.
Hyper ouverte, mais vulnérable.
Exactement. Quand un pays s'intègre aux flux mondiaux avec des méga-événements, il importe aussi les pathologies mondialisées. Les piqûres sauvages, c'est un fléau transnational qui a frappé l'Europe avant d'arriver là, via les réseaux sociaux et l'imitation.
C'est une équation d'une complexité redoutable alors.
Absolument. Il faut garantir une sécurité mondiale pour réussir 2030, tout en préservant la santé mentale d'un tissu social attaché à ces normes.
Et ça boucle parfaitement notre réflexion d'aujourd'hui. Finalement, la lecture de ce numéro de UIC, c'est une vraie masterclass sur les douleurs de croissance d'une nation moderne, pour ceux qui nous écoutent.
Un exercice d'équilibriste permanent.
C'est ça. L'État doit construire des stades futuristes, attirer des cadres internationaux, condamner ses puissants pour assainir l'administration.
Oui.
Mais... dans le même souffle, il doit écouter ce parent épuisé qui demande juste à ce que son enfant n'aille pas à l'école dans l'obscurité. Le retour au GMT, c'est l'aveu que la modernité ne peut pas s'édifier contre le rythme biologique de ceux qui bâtissent ce futur.
Une synthèse implacable. Le triomphe de 2030 ne se jouera pas que dans les tribunes du grand stade, mais dans les ramifications invisibles du quotidien.
C'est ce qui rend cette analyse si essentielle. Et on peut se quitter sur une ultime pensée.
Je t'écoute.
S'il s'avère que le simple fait d'avancer ou de reculer une montre d'une heure peut déclencher un tel tsunami émotionnel sur la souveraineté et la confiance, il est vertigineux de se demander quels autres petits détails administratifs, banals en apparence, cachent en réalité les plus profondes fractures de nos sociétés.
C'est une excellente question. La grande histoire se cache très souvent dans les rouages invisibles de notre quotidien.
Tout à fait. Une pensée à garder précieusement à l'esprit. La prochaine fois que la sonnerie du réveil retentira.